Alors bon, voilà. Alors ce livre, c'est un peu particulier parce que au départ, alors,
ce livre, c'est le socialisme sauvage.
Voilà. C'est chez les éditions L'Échappée et le sous-titre, c'est un essai sur l'auto-organisation et la démocratie directe dans les luttes de la Révolution française à nos jours. Alors ça fait un peu peur parce que les gens se disent, ce type, il va aborder tout oui. ça. Et en fait, à l'origine, bon, comment est venu ce livre, l'idée de ce livre? Il y a quelqu'un d'une maison d'édition, disons libertaire, du milieu dans lequel on circule, qui m'avait dit, oh, ça serait bien, est-ce que tu voudrais pas, j'aimerais bien que tu écrives quelque chose sur les conseils ouvriers. Bon, parce qu'il savait que j'avais été lié un peu à ce milieu-là et tout ça. Et moi, au départ, j'ai réfléchi, j'ai dit non, je ne me sens pas de faire ça, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait, qui ont beaucoup plus de capacité que moi pour parler théoriquement et de façon abstraite de ce sujet. Historiquement, bon, il y a déjà le livre d'Anton Pankow qui s'appelle Les conseils ouvriers, que c'est une œuvre importante par rapport à cette thématique, mais aussi je me sentais pas d'écrire un livre sur les conseils ouvriers parce que je voulais pas rentrer dans tout ce travail de fétichisation d'une forme d'organisation, que ça soit les conseils, que ça soit le parti, que ça soit le syndicat révolutionnaire, que ça soit les assemblées, la commune, tout ça. Je trouve qu'il y a un côté un peu de transformer ces formes d'organisation en quelque chose, une panacée, une solution, un miracle pour les luttes, tout ça. Donc, je ne fais pas ça. Ça me dit rien. Et après, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, comme ce qui m'intéresse un peu, ce que j'aimerais bien discuter, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les nouveaux mouvements, que ça soit tous ces mouvements qui ont commencé avec Occupy jusqu'au printemps arabe, les mouvements des places en Espagne, Nuit debout, les ZAD, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quelle est la filiation qu'il y a entre ces mouvements et une idée qui parcourt un peu l'histoire, qui parcourt complètement l'histoire des mouvements socialistes depuis la Révolution française, qui est l'idée d'auto-organisation et une idée d'une forme d'émancipation différente de celle à laquelle on est habitué, à laquelle on a été soumise, qui est l'histoire de l'émancipation par des organisations qui possèdent le savoir et qui amènent le peuple, les masses, la classe ouvrière, le prolétariat à la révolution. Donc je voulais essayer de reprendre ce fil de l'auto-organisation pour le ramener aux préoccupations d'aujourd'hui, puisque ça réapparaît de nouveau dans les luttes aujourd'hui. Et donc pour ça, je me suis dit, il faut quand même que je parte un peu de la Révolution française. Donc, et en même temps, je me suis dit, comment je vais faire ça? Alors j'ai eu le parti pris de choisir plusieurs moments de l'histoire du mouvement socialiste. Et de lire, je ne fais pas un livre d'histoire parce que je ne suis pas historien, je n'ai pas cet esprit-là. Bon, je me réfère souvent à la formule d'un surréaliste, j'ai déjà oublié son nom, qui disait « Je suis docteur en rien et spécialiste en tout » parce que ça m'intéresse, mais je ne suis pas du monde universitaire. Et donc j'ai pris quelques aspects comme ça, quelques moments de l'histoire, et j'essaie de voir comment dans ces moments-là, ces deux courants coexistent, s'affrontent et essayent de trouver leur place. Et pour ça aussi, je reprends, surtout à partir de la Révolution française, je reprends l'idée, cette formule de Kropotkine, qui a écrit un très beau livre sur la Révolution française, qui reste toujours, à mon avis, essentiel, même s'il avait des références limitées pour l'époque, qui est le livre sur la Grande Révolution, où il disait que d'abord, que dans la Révolution française, il y a déjà tous les éléments des courants socialistes à venir, mais aussi que le courant qui portait les principes de l'autogouvernement et de l'auto-émancipation et de la démocratie directe, il s'est déjà affirmé à l'intérieur de la Révolution française et qui après, à travers toutes les époques, il serait obligé de se bagarrer pour s'affirmer avec des formes différentes, pour s'imposer au courant du socialisme autoritaire, pour se confronter en tout cas. Et donc j'ai essayé de faire ça, donc j'ai pris plusieurs, ce sont les chapitres. Alors évidemment, il y a des choses qui manquent forcément dans ce choix. Alors je traite un peu, je commence avec la Révolution française, après il y a la question de la Commune, qui est importante aussi. Après, il y a les débats sur les principes d'autorité qui ont mis face à face les deux courants de la Première Internationale, Marx et Bakounine. Ensuite, il y a aussi ce lien dialectique contradictoire très intéressant entre le syndicalisme révolutionnaire et les premiers courants du socialisme social-démocrate dissident, les gens des mouvements aussi bien les Hollandais tribunistes que les Allemands de la gauche, la social-démocratie, Liebknecht, Rosa Luxembourg, Otto Rull et des gens comme ça, et leur lien avec le syndicalisme révolutionnaire, que j'ai trouvé un sujet très intéressant. Bon, peut-être qu'on peut parler de ça après. Bon, et ensuite, après, j'ai abordé aussi la question de la Révolution espagnole, parce que ça m'intéressait de ce point de vue-là aussi, parce que ces deux courants ont été présents, y compris à l'intérieur du mouvement anarchiste, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire un courant qui a été minoritaire, mais qui finalement a eu de l'importance, qui finalement s'est approché de l'État républicain, et un courant plus de base qui a été plus proche d'une activité qui a abouti au comité de défense et ensuite aux collectivités, etc. Bon, donc là aussi, et aussi même à l'intérieur du POUM, il y a eu un courant qui était plus proche d'une idée des conseils ouvriers, très minoritaire, des gens de Barcelone dont un mec qui est très peu connu malheureusement, qui s'appelait Joseph Rebull, qui était un catalan, bon, tous ces gens se sont trouvés en 37 sur les barricades avec les amis de Ruti, enfin tout ce milieu-là, bon, qui était lié à la CNT. Mais... Et après, j'ai aussi essayé de traiter donc la révolution, enfin ce qui s'est passé en mai 68, parce que je l'ai vécu. Et ce qui m'intéressait à mai 68, c'était par le côté anecdotique. Bon, aujourd'hui, on est un peu envahi par des témoignages, des choses comme ça, bon, qui ont une valeur réelle, mais ce n'était pas ça qui m'intéressait. Et je voulais plutôt analyser, justement, par exemple, l'affrontement qu'il y a eu entre les courants autoritaires de la CGT dans le milieu ouvrier et les comités d'action qui se sont constitués, qui ont essayé de briser un peu cette domination. Et après, j'ai fait aussi j'ai revisité aussi la Révolution portugaise, que je connais assez bien, avec la formation de conseils de travailleurs, comités de travailleurs, le rôle du PC portugais, tout ça, pour en arriver au courant d'aujourd'hui, dont je parlais au départ, que c'était ce qui m'intéressait, les mouvements des places, tout ce qui est tous ces courants des ZAD, des zones autonomes et tout ça, et les débats qui sont autour de ça, parce que je vais aussi discuter toutes les idées qui émergent de ces nouveaux mouvements. Bon, évidemment, il y a ce phénomène du comité invisible avec leur livre qui a quand même, on peut pas passer à côté, c'est un peu incontournable, pas malgré eux, parce qu'ils sont quand même très imbus d'eux-mêmes, mais qui quand même pose des questions. Mmh. Et aussi
avec le dernier qui s'appelle maintenant,
le troisième, bon, à mon avis il y a quand même déjà un peu la fin, parce que ils ont mis la barre très haute dans l'insurrection. Mmh. Et après ils ont reconnu que ça s'est pas produit, bon, et puis maintenant ils sont sur des choses finalement plus classiques, la convergence des luttes, etc. Mais et aussi d'autres courants insurrectionnalistes qui sont forts dans le milieu anarchiste. Je n'ai pas commencé à Bordeaux, mais à Paris, il y a plusieurs groupes, tendances, des petits groupes qui sont très centrés sur cette idée de la, de l'action exemplaire du, et qui n'ont pas la même formation que les gens du comité invisible, mais finalement il y a même certaines coexistent, mais sur un terrain assez proche, quoi, celui de la, qui donne une priorité à l'action exemplaire, qui a souvent une action d'affrontement, quoi. Et dernière, pardon.
Oui, je voulais dire que ce qu'il y a de nouveau apparemment, ce serait l'acceptation d'être sur des divergences de lutte. Alors qu'autrefois, on s'excluait. Tu es pas comme moi, tu luttes pas pareil que moi, donc t'es pas bon, quoi. Là maintenant, on a l'impression que ce qui se passe aussi dans les manifs avec les groupes de tête, etc., qu'il y a une acceptation de chacun à pouvoir lutter différemment, mais en s'acceptant dans ces luttes différentes. Et ça, c'est très nouveau et c'est, ça me paraît un mouvement très très important.
Ça c'est sûrement vrai. Je pense que tu as raison. Ceci dit, c'est plus qu'acceptation, il y a presque une certaine ignorance, parce que et ça se croise pas toujours, hein, c'est, tous ces milieux-là. Hein. Mais c'est quand même déjà positif que ça ne sent pas un affrontement,
une exclusion.
Exactement. Ceci étant, ce qui se passe actuellement à Notre-Dame-des-Landes montre aussi que ça peut revenir. Parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, comme vous suivez un peu ce qui se passe, tant qu'il y a un ennemi commun, si tu veux, c'est ce qui se passe par exemple dans les manifs de tête, là aussi. C'est intéressant cette histoire, parce que en tout cas à Paris, les manifs de tête ont ce qu'on a appelé les manifs de tête, qui a toujours existé, parce que, sauf que c'était pas en tête, mais c'était de côté, on défilait pas dans le défilé, derrière le service d'ordre de la CGT ou autre, mais on défilait à côté, tout ça, sauf que maintenant, tous ces gens se regroupent devant, et le précédent gouvernement socialiste, surtout quand ça a été sous l'orientation de ce terrible personnage là, monsieur Manuel Valls, ils avaient adopté des tactiques policières extrêmement violentes et agressives qui ont quelque part aussi renforcé le cortège de tête. En tout cas à Paris, c'est comme ça que ça s'est passé, parce qu'il y avait donc la police, les mercenaires de l'État étaient, je ne sais pas comment c'était à Bordeaux, mais il y a une période pendant la période Valls, ça devenait vraiment délirant. Il y avait beaucoup de gens qui n'allaient plus aux manifs parce que c'était extrêmement violente l'attitude de la police. Moi, j'ai vu des manifestations, bon, ça c'est un peu secondaire, vous pouvez couper ça après, mais j'ai vu à Paris des manifestations où ils avaient donné l'ordre au CRS de coller les manifestations en face. C'est-à-dire que tu avançais, collé à ce mur de Robocop, qui reculait, il y avait toute une frange de ces militaires qui donnaient le rythme de l'avance de la marche, tu vois, en reculant. C'est-à-dire que je sais même pas comment il n'y a pas eu de mort, parce que tu imagines les gens qui étaient dans cette manif de tête et ça, ils étaient poussés par la manif aussi. Donc, bon, je veux dire, là, évidemment, dans des situations comme ça, où l'ennemi est très clairement devant toi, ou à Notre-Dame-des-Landes d'une autre façon, là, tous ces groupes ont fonctionné ensemble. Bon, maintenant qu'ils ont changé un peu de tactique, déjà dans les manifestations à Paris, les dernières, la police est très peu présente. Bon, elle n'est pas absente, elle est massivement présente, mais
tu l'as visible.
Exactement. Et encore que j'ai appris dans la dernière manif pour les étudiants, ils ont de nouveau sorti la police tout au long des trottoirs.
Je sais pas.
Donc, ils jouent avec ça, quoi, tu vois. Ouais, ils jouent avec ça.
Quand c'est des petites manifs, voilà. Ils reprennent les stratégies.
Voilà. Oui, parce que bon, c'est pour eux, c'est un métier, c'est une technique qu'après d'ailleurs. Ils vendent aux États étrangers. Oui, oui, la police française. C'est une marchandise d'exportation, la répression. Mais donc, au Notre-Dame-des-Landes, là aussi, c'est pareil. Si tu veux, une fois que l'ennemi, évidemment, il est toujours là, mais il n'y a plus ce danger de l'aéroport, cette menace de l'aéroport. Maintenant, là, ils ont joué très bien, et donc il y a cette question de la propriété qui a été introduite, comme par hasard, le système n'invente jamais rien de nouveau, et à qui on va donner les terres, dans quel cadre, qui peut les avoir, qui a le droit d'être propriétaire, tout ça. Et là, il y a de nouveau des divisions assez fortes qui prennent pas des formes très sympathiques à nouveau, tu vois. Donc voilà, je crois que je vous ai résumé un peu l'idée de ce livre. Alors, alors évidemment, il est un peu dense, parce que j'ai beaucoup travaillé pendant 4 ans pour faire ça.
Et 320 pages, quand même.
Hein, ouais. Voilà.